Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue au Centre Pompidou et à la Cinémathèque du documentaire À la Bébille pour cette nouvelle session de la Fabrique des films. Et ce soir, ça sera le tour à Aminatou Echar de présenter son nouveau projet. Et selon la formule consacrée, cette présentation sera suivie d'un film précédent par la même réalisatrice. Donc on a opté pour Djamilia. C'était assez un choix pas très difficile pour nous parce que le film fait partie de notre collection. Et Aminatou est accompagnée de Karine Tchaïkovski. Et à côté de moi, il y a Fabienne Enclos du CNC qui va dire quelques mots, j'espère, maintenant.
Bonsoir et ben merci au Centre Pompidou de nous accueillir donc pour ce rendez-vous trimestriel.
Oui, on peut dire ça.
Autour de justement la fabrique de films documentaires. Donc au CNC, moi je dirige un service qui gère notamment le fonds documentaire de création dont s'occupe Marine Quatelam ici présente. Et c'est un fonds qui soutient le documentaire de création au stade de l'écriture, du développement et de ce qu'on appelle le développement renforcé. C'est un fonds particulier puisqu'il part vraiment de la manière dont le documentaire s'écrit, se fabrique, se produit, c'est-à-dire un aller-retour permanent entre l'écriture et les images, les repérages, les premiers tournages, etc. Le film a été donc aidé au développement renforcé. Et l'idée, c'est de mettre en partage avec vous la manière dont on écrit un projet documentaire, même si évidemment chaque documentaire est un prototype différent. Donc on tente à chaque fois de choisir des projets très différents les uns des autres pour voir qu'il y a mille façons d'écrire et de produire le cinéma documentaire.
Et ce qui est intéressant aussi, si vous me permettez, c'est que chaque fois on a des projets qui sont dans un stade pas tout à fait pareil. Là, on est avec un projet, vous corrigez-moi si vous voulez, où il y a pas mal de choses qui doivent encore arriver, où il y a pas mal de choses qui sont en train d'arriver. Donc, on aura beaucoup de choses à se dire. Et donc, Aminatou vous, et Karine, vous avez aussi invité une personnage qui va monter sur scène tout à l'heure. Il s'agit de qui ? Est-ce que ça marche ?
Non. Et celui-là marche.
Oui, il faut l'allumer.
Bonsoir. Donc la troisième personne, oui, c'est Karim Abdelaziz, qui est avec qui je travaille sur le film depuis le début de l'écriture du film aussi, et qui est comédien. Et qui viendra tout à l'heure pour faire une lecture. Et, voilà.
Donc ça nous rejouit beaucoup, hein, parce que normalement on a le cinéaste ou la cinéaste et le producteur ou la productrice. Donc on est trois ce soir, on est très contents. Voilà. Aminatou, est-ce que vous pouvez dire toujours, nous raconter un tout petit peu le début de... Du grand tout, voilà.
Début du grand tout, ouais. Donc le titre du film, c'est Le Grand Tout. Alors le tout début, c'est, je dirais que c'est un coup de fil du CNRS audiovisuel, c'est ancien, c'est vieux, ça date de 2015. À ce moment-là, toutes les archives de tous les chercheurs étaient entreposées dans un entrepôt qui allait être démoli puisqu'il fallait, Et donc, ils contactaient les ayants droit pour savoir... ce que je désirais faire de ces bandes, et est-ce qu'ils allaient les jeter ou est-ce que moi j'avais envie de les récupérer. Et voilà, des bandes de ma mère, les bandes de films tournées par Nicole Echar, donc ma mère, qui était ethnologue, et qui avait tourné entre 1964 et 78 beaucoup d'images, puisqu'elle a réalisé quatre films. Donc, le début. Je prends les choses un peu, pas forcément dans l'ordre, mais c'est le début du grand tout. Donc Nicole Échard, qui est ma mère, et dont je savais qu'elle avait fait des films, évidemment, et dont moi et ma sœur, on avait gardé toutes ces archives dans un grenier, et tout bien enfermé dans des cartons, et que je pensais, enfin voilà, qui était là. Et ce coup de fil... les a fait un peu ressurgir. Enfin, je suis allée au CNRS, dans l'entrepôt, j'ai vu qu'il y avait deux rayons, avec beaucoup de bandes, des sons, beaucoup de sons, et que c'était encore de bonne qualité. J'ai pu les regarder sur une table 16 avec une personne au CNRS, et donc j'ai dit je les récupère, et puis je me souvenais avoir récupéré une chemise au moment du décès de ma mère. J'avais 19 ans, donc elle n'était pas si vieille, elle devait avoir 57 ans. J'avais pris une correspondance de deux chemises dans lesquelles j'ai retrouvé 200 lettres envoyées par les informateurs de ma mère. Et dont l'un lui avait écrit sur une période de 30 années, 120 lettres. Et donc, je suis allée voir cette matière-là. J'en ai découvert une autre, puisque là-dedans, il y avait le journal écrit par ma mère. Et donc là, je me suis dit qu'il y avait un film potentiel. Qu'il fallait que je fasse quelque chose avec cette matière-là, parce qu'elle ne pouvait pas rester dans les cartons, que j'avais ce souvenir-là, qu'elle disait qu'elle faisait ce travail-là pour restituer une mémoire et recueillir des récits de vie et puis ensuite la restituer, la garder, et puis elle se retrouvait dans des cartons. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. Donc pour préciser peut-être le contexte, elle a travaillé au Niger. Quand elle y est arrivée en 63, c'est son premier terrain, elle était assez jeune, elle était en début de thèse, on va dire, à l'époque. Et donc elle a tout de suite intégré, c'était Jean Rouche qui travaillait là-bas, qui avait mis en place l'Institut de recherche et dans lequel il y avait déjà pas mal de chercheurs qui travaillaient. Elle y est restée. Et donc elle a travaillé toujours sur ces mêmes terrains. Et en fait, comme il y avait Jean Rouche, qui encourageait les chercheurs à filmer, elle a filmé beaucoup d'images. Elle avait un rapport à l'image, je pense aussi, de ces époques-là qui devait être différent d'une autre. Elle avait un Leica, elle a fait beaucoup de photographies, de choses comme ça. Elle travaillait sur les cultes de possession et le processus de fabrication du fer, la métallurgie, si bien que dans les archives, ce que j'ai retrouvé, qui est comme si ça avait été filmé hier, parce que c'est absolument impeccable. Ce sont des cultes de possession, des images comme ça. Alors, je peux montrer un film, qui est un court-métrage qu'elle a réalisé, qui dure 6 minutes, qui s'appelle Forgeron, fils de femme. Du coup, on va montrer l'extrait. Je crois que c'est pour la cabine.
Daoudouka, le fils des femmes, revêt le costume particulier des griots des forgerons et se prépare à aller chanter dans les rues du village. Au début du monde, il a beaucoup plu. Les tambours étaient mouillés. Alors, l'ancêtre Noé a créé un instrument de fer qu'il a donné aux forgerons fils des femmes. Noé a dit que le griot chante l'histoire d'une personne qui a mal agi et elle sera maudite. Daoudou Ka raconte en chantant les fautes commises par un individu contre la morale sexuelle, fautes qui ont nui au forgeron. Les détails du récit sont réalistes et comiques. On en rit beaucoup, mais les femmes s'empressent de remettre au griot un cadeau d'argent ou de mille afin qu'il s'éloigne et qu'on n'entende plus ces histoires honteuses. Avec de l'argile, Daoudou Ka le griot modèle l'effigie d'une femme qui a transgressé les règles de la morale sexuelle. L'effigie est promenée dans les villages, accompagnée d'une chanson relatant les faits, par exemple adultère ou inceste. Composée pour l'occasion, la chanson restera dans le répertoire du griot. Cette présentation publique du délit en est la sanction. Ou bien le coupable répare ses actes, ou bien il s'exile dans une autre région. Le griot reçoit à nouveau un cadeau de mille de la part des femmes du village. À l'écart des villages, l'envoûtement se fait sur une fourmilière, habitat des divinités de la brousse. Seuls sont présents les forgerons, et des enfants, qui, vierges et purs, sont indispensables au déroulement du rituel. Le coupable subira 3 morts. Sous la forme d'un enfant, il est vaincu à la lutte par le forgeron. La forme du forgeron lui-même, on lui refuse l'eau qu'il demande et il mourra de soif. Le forgeron, déjà 2 fois victorieux, danse pour manifester sa joie. les objets du rituel de la troisième mort sont introduits dans la danse autour de la fourmilière. Une médecine est préparée dans une calebasse neuve. Si la poterie cède sous le poids de l'enfant, le rite sera sans efficacité. La crasse de l'enfant est recueillie pour augmenter la puissance de la médecine. À cause de Dieu, nous avons fait cette effigie pour celui qui a mal agi. Dieu aide-nous à être mauvais avec cet homme comme il l'a été avec nous. C'est la troisième mort, celle donnée par les médecines des forgerons. Voilà le maudit. Voilà le maudit. Maintenant, tu vas mendier avec cette calebasse. Garde le reste des médecines pour mieux crever.
Commentaire peut-être
sur le film ce que je peux dire c'est ça donne une idée peut-être du travail qu'elle a effectué d'enquête et de recherche sur là-bas dans l'Adère au Niger et qui forcément prenait du temps. Elle y allait Elle y restait assez longtemps, elle faisait peut-être des missions tous les 2 ans, de plusieurs mois. Elle a beaucoup travaillé sur les forgerons. Ce qui m'intéresse dans le fait de récupérer ces archives et de la façon dont moi je pensais travailler avec toutes ces matières-là, parce qu'il y a. Donc moi je vais travailler avec les films, avec les chutes de chacun de ces tournages. Et pour les mettre en regard avec le journal qu'elle a écrit au cours de ses missions et donc les lettres envoyées par les informateurs qui racontent aussi, qui parlent aussi du terrain et de comment eux travaillaient avec elle sur le terrain et de comment ça se passait en fait. C'est plutôt voilà. Par exemple, peut-être un exemple. Je ne sais pas si ça va être dans l'ordre chronologique, la façon dont je vais parler. Je suis allée au Niger au printemps dernier, dans le fil en fait du film. J'y suis allée que au printemps dernier, alors que finalement ça fait assez longtemps que je travaille sur le projet, mais dans l'écriture ça ne s'est pas présenté tout de suite parce que je ne pensais pas. Je pensais que mon histoire n'était pas au Niger et que le film ne devait pas aller être tourné aussi au Niger. Au final, j'y suis allée et donc c'est là. Je reviens au forgeron. Donc là-bas, j'ai rencontré 2 personnes encore vivantes qui ont travaillé avec Nicole, dont l'un qui était chauffeur sur la mission dans laquelle s'est déroulé le tournage donc de ces films, celui-là. Et Noce de feu, qui est un autre film plus long qui retrace tout le processus de fabrication du fer. Et donc, Doula est originaire du village dans lequel ont eu lieu le tournage, et donc raconte l'envers du décor et comment finalement c'était pas si évident que ça pour Nicole de filmer sur place, que certes elle était acceptée par... par le forgeron en chef, qui lui savait que c'était la dernière fois que la fabrication du fer se déroulait, mais l'ensemble des villageois ne voulaient pas que ces secrets-là soient délivrés à une chercheuse, une blanche, une française. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les deux côtés, les deux regards, du côté donc du sien avec de la chercheuse et du côté des Nigériens.
Quand tu dis tout à l'heure, j'ai compris qu'il y avait un film à faire, tu parles de quoi justement ? D'une première quête, évidemment personnelle, parce qu'avoir une femme, une mère qui est loin, qui voyage beaucoup, etc., ça te construit d'une certaine manière. Est-ce que d'emblée tu te poses ces questions-là de qu'est-ce que c'était que d'être une femme blanche qui filmait dans ce contexte-là ? Est-ce que tu étais déjà consciente de tout, de la manière dont tout ça avait été peut-être un peu compliqué, y compris avec Rouche, et enfin comment ta mère, elle était, c'était quand même un geste, c'était pas rien quoi d'être une femme seule à faire ce type de film au Niger. Quand tu dis j'imagine un film, je me dis qu'il y a un film à faire. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ?
J'ai lu en lisant les lettres et en voyant à quel point Garba était aussi véhément en fait à son encontre. Enfin là, je prends conscience qu'effectivement ça n'a pas été simple dans la relation et que surtout lui il a un regard sur son travail et en même temps quelque chose de très concret, enfin terre à terre. Enfin, et moi, je me dis, mais j'ai envie d'avoir au départ ce regard, ce point de vue en fait des gens qui travaillaient avec elle et des gens avec qui elle était forcément en rapport et que c'est ça qui me tire et que en lisant son journal, j'ai aussi forcément, je rentre dans cet aspect-là, puisqu'elle, dans son journal, elle s'auto-analyse, elle décortique sa présence à elle de France, de femme, là-bas sur ce terrain, de française et de chercheuse, et qu'est-ce que c'est que de regarder l'autre, et comment est-ce qu'on peut réussir à se départir de l'apprentissage du regard de l'autre qui est aussi conditionné par la façon d'où on vient, le lieu d'où on vient et dans lequel on a grandi et dans lequel on s'est appris. Et en fait, moi, du coup, j'ai envie, certes, de redécouvrir ou découvrir ma mère au travers de son travail, mais c'est pas ça, c'est aussi d'aller porter en fait ces textes-là, ces archives aujourd'hui pour aller à la rencontre de Nigériens aujourd'hui. Et avoir leur regard à eux, voir comment eux perçoivent ce travail-là en le reconstitualisant et en rentrant tout comme moi dans ces archives à elles en fait. Donc déjà j'avais cette intuition-là, ce désir-là en tout cas, de pas rester uniquement dans une histoire personnelle, intime.
On va peut-être même dire l'inverse, c'est-à-dire que si la question de Fabienne qui commence par l'intime, c'est plutôt l'inverse qui se passait, c'est-à-dire ce qu'elle vient d'expliquer, c'est son premier sa première approche, donc est plutôt une approche politique, une approche justement de qu'est-ce que ça pouvait être une femme blanche de travailler sur ce terrain-là, plutôt qu'une approche intime. Ça a plutôt été un travail dans un deuxième temps.
D'accord. Oui, avec d'emblée quand même l'intuition que vous alliez, ce qui est l'ambition énorme du projet, c'est que c'est déjà pas rien d'aller sur cette quête d'archives et de restitution d'une mémoire, mais aussi de la confronter avec forcément le présent et l'héritage du colonialisme et donc avec d'emblée l'ambition dans un regard un peu collectif sur cette histoire quoi.
Oui, ça c'était très présent au début, c'était effectivement ça, mais à tel point que je voulais pas entendre que c'était aussi un film sur ma mère, enfin qu'il y avait ma mère quand même dans l'affaire. Donc du coup la part intime, disons en tout cas là, dans l'écriture du film, la place que prend cette quête là, elle a mis du temps à se disons, à se faire sa place dans le film quoi, par rapport au reste. Mais donc voilà, donc il y a eu tout un long travail d'approche parle.
Peut-être cette question, enfin cette ambition dont tu parles, qui était là dès le début, pour le coup, c'est vrai, de questionner ces textes au présent. Il y avait cette ambition-là, mais il n'y avait pas encore vraiment. Il y avait des idées, mais il n'y avait pas encore de forme précise à y donner au départ. Il y avait l'idée qu'il fallait faire vivre les textes au présent. Donc, d'une certaine oui. façon, de les interpréter quand même. Ça, c'était oui, quand même ça, c'était une volonté présent, dès le départ. Fort.
Ça, c'est au moment, parce qu'il faut qu'on soit un peu technique aussi sur oui. comment tout ça se finance et comment on avance dans le travail. Ça, c'est au moment où vous allez chercher l'aide à l'écriture de scénario au CNC ou l'aide à l'Île-de-France d'abord, l'aide à l'écriture
de la région. Alors, l'aide à l'Île-de-France, c'était en 2015, c'était au tout début. Cette première aide à l'écriture de scénario, où là, c'était vraiment, je venais de retrouver les archives de Nicole, je venais de relire enfin voilà, c'était vraiment le tout début. J'avais cette intuition là que je voulais aller rencontrer des Nigériens aujourd'hui. Je savais pas qui, je savais donc voilà que c'était ça. Donc voilà, c'était vraiment très très succinct. C'était un dossier relativement court d'ailleurs. Et voilà, donc il y a eu ce grâce à cette aide-là, bah, du coup j'ai pu, enfin j'ai déjà pu voir les images que j'avais pas vues, qui étaient là sous forme, enfin voilà, c'était des bobines de bande 16 mm et il fallait que je puisse avoir les moyens déjà d'y accéder et donc voilà, il y a eu tout ce travail là et ensuite ensuite j'ai fait Jamilia. j'ai fait Jamilia puisqu'en fait j'ai eu l'aide à l'écriture de l'Île-de-France au même moment que l'aide à la production de films courts pour Jamilia. Donc voilà, j'ai fait Jamilia et puis j'ai repris ensuite en 2018 le travail une fois que ça a été, que le film que vous allez voir après était fini. Je pense que j'ai été un peu plus précise sur le dispositif que je voulais enfin avancer.
À ce moment-là, et c'est à ce moment-là.
Et non, enfin,
un peu. Elle avait commencé à écrire ce dossier-là. On n'avait pas. En fait, si je me souviens bien, sur l'Île-de-France, il n'y avait pas vraiment l'histoire du rejeu. C'était vraiment concentré sur les archives, l'histoire de Garba, donc du principal informateur et de Zakara et de ta mère.
Oui.
Et à partir de la recherche de l'écriture au CNC, enfin du dépôt, là, commençait à venir vraiment l'idée qu'il fallait des Nigériens aujourd'hui qui réinterprètent des textes. Qu'il y avait un travail de jeu à trouver, et un travail d'atelier ou quelque chose autour de ça, si je me souviens.
Oui. Et
là, moi, j'arrive à peu près à cette période-là.
Oui, et donc dans ce dossier-là, de l'aide à l'écriture de scénario, enfin, je me souviens que c'était une question qui avait été posée d'ailleurs à la commission. Du coup, la question de la place de l'histoire intime, enfin, et personnelle, qui dans ce dossier-là, cette étape-là, n'était pas encore vraiment développée, présente et questionnée. Et voilà. Et donc, c'est peut-être au moment où on a commencé à travailler ensemble sur l'écriture que tu m'as pas mal bousculée que là-dessus, mais que du coup on a pu aussi travailler, avancer l'écriture avec une autre personne, enfin Julie, qui est venue pour m'épauler sur tout ce, pas pour avoir un regard aussi, enfin à distance et avancer, donc ça, c'était plutôt bien, quelqu'un qui est, je sais pas, qui fait de l'accompagnement à l'écriture de scénario, on va dire.
Ouais, elle vient de la fiction, elle est script, mais elle écrit aussi, enfin, elle collabore sur des scénarios et sa façon d'être script est quand même, son travail est très impliqué dans le scénario en général, dans les scénarios de fiction sur lesquels elle travaille. Et du coup, elle a aussi tout lu, presque. Ouais. Elle a beaucoup travaillé sur les questions d'incarnation et de qui pouvait jouer quoi et de comment ça se jouait aussi pour Aminatou, parce que donc on a parlé du travail de de Nicole, mais évidemment en tant que mère et en tant que personne aussi, tu peux peut-être brosser un portrait aussi de ta mère en tant que personne, c'est-à-dire d'où elle venait par rapport à l'ethnologie en général, socialement.
Oui,
elle avait un regard très particulier, et puis après, elle avait un rapport au féminisme à l'époque, qui était... Et il y a le fait que tu t'appelles Aminatou.
Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça marque aussi une forme d'engagement quand même assez fort, parce que, oui, c'est pas rien. Elle venait d'un milieu plutôt ouvrier, et oui, donc ça, en tout cas, dans le contexte des chercheurs de son laboratoire, des ethnologues, c'était pas courant. Enfin, c'est, voilà, aujourd'hui, je sais pas, mais à ce moment-là, c'était pas courant, effectivement, féministe. Et voilà. Mais,
est-ce que vous avez des images de votre mère
avec vous? Ah oui, j'ai des photos. Alors. Sont dans l'aperçu. Il est où l'aperçu là-dessus? C'est là, c'est où l'aperçu? Non, l'aperçu, le truc aperçu. Ah, c'est ça. Ah, mince, il n'est pas. Bon, alors, le document, le truc.
Faire une film, c'est faire un dossier.
Ça arrive.
Alors ça, elle date de 63, cette image. Donc c'est vraiment la première mission. La toute première. Donc elle était née en 1937. Donc en 63, elle, voilà, je sais pas, 27 ans, quelque chose comme ça. Donc là, c'est aussi une image de 63. Celle-là doit dater de 65, 66, quand elle a commencé à filmer, et a dû être prise par le Garba, qui devait être avec elle, et avec son Leica. Je pense qu'elle a dû donner son Leica lorsqu'elle filmait, parce qu'il y a quelques images comme ça d'elle. Il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'il doit y en avoir une dizaine. Ouais, mêmes années. Celle-là, elle est peut-être 76, quelque chose comme ça, un peu plus tard. Et ça, c'est 81. C'est son dernier voyage. Il y a une évolution assez... là, c'est à Azelik, la ville des gens d'avant, comme elle dit dans ses textes. Donc tout au long de son travail, des archives, de ces textes que j'ai pris, et de son rapport à l'image et au film, au début elle filme beaucoup et elle prend beaucoup beaucoup d'images, et au fil des années il y a de moins en moins d'images, et il y a beaucoup de gens, elle photographie beaucoup de personnes jusque 79, quelque chose comme ça, 76, 79, il y en a de moins en moins, et en fait en 81 il y a, à partir de ce moment-là, il n'y a plus personne, il y a des objets. Et en fait, ça va avec un cheminement, en fait, qui est le sien, je pense à un questionnement de comment traduire, ce qu'elle voit. Est-ce que une image, est-ce que c'est par l'image, ou est-ce que c'est autrement, par le texte ou par le son, et aussi, elle se demande ce qu'elle fait là-bas. Parce que les portes se ferment et que c'est très difficile d'accéder en fait à l'information, enfin à son travail en fait au fil de ses enquêtes. Et donc voilà, là finalement dans les images il y a un peu ça. Donc là elle est dans la ville des gens d'avant. Et c'est tout. Ah ouais, c'est vrai. Oui, je peux. Oui, alors, on peut.
Peut-être avant, si tu fais... Oui, peut-être si tu fais des extraits du journal, l'idée c'était de les mettre en dialogue avec... avec Garba, donc il faut peut-être présenter un petit peu Garba, qui était Garba et comment...
Oui, et puis... Avant ça, moi j'ai juste une petite question technique, parce que j'ai quand même des jeunes gens dans la salle. Moi je trouve ça toujours étonnant au départ d'entendre soutien au scénario en documentaire, et peut-être juste expliciter ce que c'est qu'un scénario. Pour, à ce moment-là, qu'est-ce que c'était ? C'est des situations rêvées, c'est des pistes sur lesquelles le film pourrait aller. Comment
pour moi, à ce moment-là, c'est des pistes, des désirs en fait que j'ai moi de faire revivre cette matière-là, de me demander comment je peux faire revivre cette matière-là, c'est-à-dire les textes, la parole de Nicole, la parole de Garba et la parole de Zakara, des Nigériens de l'époque qui ont travaillé avec elle, et donc c'est essayer de mettre en place des dispositifs pour
mais pas c'est aussi raconter des histoires, Aminatou, c'est-à-dire qu'il y a qui sont les gens, qui sont les grands-pères, enfin les personnages de l'histoire, donc essayer de raconter ce qu'ils traversent chacun. Donc il y a quand même dans ce premier dossier de l'aide au scénario, il y a le parcours de vie de Nicole, le parcours de vie de Garba, comment ça trace une histoire un peu du Niger et de la France et de la relation entre les deux pays. Enfin, il y a quand même cette idée de partager des histoires et après d'essayer d'inventer des dispositifs cinématographiques qui...
Et sonores et des images et travailler la lumière et tout ça. En fait, il y a moi qui ai toutes ces choses-là dans la tête et puis il y a Karine qui doit avoir un dossier pour le présenter aux commissions.
Qui n'est pas qu'Aminatou qui se parle à elle-même, en fait.
Voilà, et qui, du coup, m'oblige à écrire un scénario avec presque déjà essayer de construire le film avec, pas un début, un milieu, une fin, mais en tout cas quelque chose qui évolue, qui avance et qui se développe, et puis d'avoir des personnages, effectivement, et puis d'arriver à aller... Voilà,
donc il y a les personnages.
Il y a des personnages.
Il y a le dispositif, mais je veux juste dire ça parce que ça arrive souvent avec les réalisateurs. En fait, eux, ils ont tellement l'histoire en tête, enfin ce qui se passe qui sont les gens, de qui on parle, etc., que en fait ils parlent de dispositif, comme Aminatou vient de le faire, beaucoup. Sans qu'on ait compris de quoi il parlait, en fait. Donc, le dispositif, en tout cas, la mise en scène, comment on va raconter l'histoire, ou comment on peut raconter des histoires, comment on peut faire travailler les images et les sons, justement, c'est super, et ça fait partie de... Enfin, je veux dire, c'est le talent du réalisateur, mais il faut aussi faire partager, à la base, l'histoire, et peut-être que le producteur... son premier rôle, c'est d'être le lecteur qui comprend rien, en fait. Celui à qui il faut tout expliquer, en fait. C'est un peu ça.
Oui. Qui tire, qui appuie là où ça... C'est pas facile aussi. Mais c'est bien, non, c'est sûr. Mais je reconnais que ça fait avancer le travail d'écriture, même de pensée du film. Alors, par contre, quand même, c'est important de dire que là, ça a l'air abstrait parce que il y a cette base, il y a ces archives-là, ces textes et tout ça. Mais j'ai avancé donc tout ce travail d'écriture des archives et du film aussi avec un travail de repérage auprès de Nigériens, en fait, à partir du moment où on a eu l'aide à l'écriture de scénario, d'ailleurs, justement, où là, j'ai pu rencontrer des Nigériens à Bruxelles. Je raconte Garba et Zakara. Alors Garba, donc c'est l'informateur, l'un des informateurs de Nicole, qui a le même âge qu'elle quand ils commencent à travailler ensemble et qui concrètement sur le terrain va organiser certaines rencontres, est aussi interprète et guide, voilà, et qui quand Nicole n'est pas sur le terrain prépare aussi le terrain avant qu'elle arrive. Lui, donc,
C'est il a le même âge qu'elle, il a la trentaine quand...
Il a la trentaine, et puis, oui, il a le même âge qu'elle, et il grandit avec elle, et il fait des tas de petits boulots à côté, parce qu'il ne peut pas vivre uniquement de ce travail-là auprès des chercheurs. Et donc, au fil des lettres, ben, on découvre aussi sa vie et son... Voilà, son Zakara, c'est...
Il se fait embaucher... Enfin, à un moment donné, il devient chercheur... Enfin, il se fait embaucher au CNRS. Enfin, il y a tout le parcours de vie. Et quand même, ce que tu as dit au départ, c'est-à-dire que c'est quand même quand tu as découvert aussi ses lettres à lui, ses 120 lettres, c'est quand même la relation de Nicole et de Garba qui, au départ, t'ont quand même un peu poussé dans le désir de film.
Oui, et de faire revivre aussi cette parole-là. Ouais. Parce qu'ils ont une relation quand même assez, assez forte et aussi houleuse, parce qu'il n'a pas la langue dans sa poche et qu'il dit franchement les choses à Nicole, et que c'est ça aussi qui m'intéressait. C'est qu'il y avait... c'est ça aussi que, de toute façon, elle décrit, à savoir qu'elle voulait avoir un rapport, disons, d'égal à égal, ne pas être, enfin, avec les gens avec qui elle travaillait, le plus possible. Elle travaille avec des gens qui n'étaient pas forcément rattachés, enfin, à l'institut de recherche en sciences humaines, enfin, de Niamey, avec les chercheurs. Et donc lui, il vivait d'autres choses à côté. Et voilà. Donc
il se fait embaucher au CNRS. Il le quitte pour parce qu'il a quand même une indépendance d'esprit assez grande et que à un moment donné, ça lui convient pas. Il devient tablier, donc.
Vendeur, commerçant dans la rue.
Commerçant. Enfin bref, c'est une personne qui a un fort caractère, on peut dire, et qui s'exprime assez librement dans les. Et alors Zakara ?
Et Zakara, donc, qui est un Sarkinbori, donc un chef de culte de possession, qui a 90 ans en 79, 76, 79, au moment où elle le rencontre, et qui est donc un guérisseur aussi, et on pourrait dire, enfin, qui a une parole assez puissante, et alors dont j'ai retrouvé un entretien, plusieurs entretiens très longs, transcrits en français. Donc j'ai plus sa parole, ça a dû être enregistré, mais donc voilà. Et là, lui, il a 90 ans en 79, il était assez grand, mais enfant, lorsque la mission voulait chanoine est passée par le Niger, et donc
lors de la conquête française, en fait, en 1890. 19. Donc lui, il a une dizaine d'années, c'est ça ?
Il a, oui, une dizaine d'années.
Au moment de la conquête française, et il raconte ça.
Il raconte ça, il a été témoin de ça, il parle de ça à Nicole. Et ensuite, de l'installation des Français, et puis de des travaux forcés auxquels il a été évidemment contraint à participer. Et puis ensuite, donc du coup, cette parole-là, pour moi, était importante dans le film. Puisque
il a traversé l'histoire de toute la colonisation du Niger, jusqu'à la décolonisation.
Jusqu'à la décolonisation, dont il parle assez peu, mais il parle, en tout cas avec ses mots à lui, de cette partie de l'histoire-là disons, l'histoire du Niger et de la France là-bas au Niger devient aussi fait partie du film et aussi le cœur du film, et que du coup, moi, il fallait, enfin, je trouvais que d'avoir un témoin de cette histoire-là directe, ça devait être dans le film. Donc,
Et puis, il est aussi souvent au cœur des discussions, il fascine Garba et Nicole, il est au cœur de leurs discussions régulièrement, donc c'est quand même un personnage aussi qui fait partie de leur... Ils vont le voir à chaque mission.
À chaque mission, ils vont le voir, donc On peut faire la lecture. Donc du coup, la lecture, c'est un extrait du journal de Nicole et de deux lettres de Garba, du coup, que Karim va lire aussi à côté de moi. Est-ce qu'on peut baisser la lumière parce que c'est super fort et je ne vois rien. si c'est possible.
Qu'il y ait un peu plus de lumière de salle.
Pas trop, mais enfin, en tout cas... Ouais.
Lumière de salle.
Ah non, mais je vois rien, en fait, là. Je vais prendre mon téléphone portable. Ouais, en fait, il y a la lumière qui vient trop de là, en fait. C'est... Du coup, je... Ouais. Peut-être, voilà. Ouais, comme ça. Ouais. C'est... Ah ouais, j'avais pas pensé que c'était... ça serait aussi dur. Non, mais j'ai mes lentilles. Non, mais ça va le faire. Attends, tiens, je peux le prendre. Ah, voilà. Bah, voilà. Ah, par contre, je veux bien que tu aies le micro. Ouais. Voilà. Ok. Alors. Ouais. Alors, 15 janvier 1976. Anecdote. Ce n'est pas parce qu'on est dominé qu'on est idiot. Les hommes que je rencontre comprennent la ressemblance entre l'anthropologue femme et leur propre femme. Et les femmes perçoivent que cette personne blanche de pouvoir est aussi domestique et travailleuse qu'elle. Au début, je me baigne dans le fleuve aux rivages exotiques. Sable chaud, palmiers, paillotes, club méditerranée. Au glauque avec des poissons électriques à contre-courant. Désagrément des tropiques. Je peux me baigner partout, je suis blanche. J'ai des yeux de chameau, tignasses de génie de brousse. Je me baigne du côté des femmes. Repos de ne pas savoir où je suis, de ne pas comprendre ce qui se dit. Club méditerranée. Les femmes ne savent pas nager. Je porte une très jeune fille sur mon dos dans le courant, là où l'eau est profonde, corps souple, mouillé. Attachée. Elle se laisse faire. Pourquoi ? Elle rit. À la rive, les perles de sa ceinture font clic-clic, comme ça. Je prends l'habitude de me baigner là. Elle rit. Mais moi, je me dis, tiens, un regard d'homme sur une jeune fille. Puis, tout au long des mois et des mois, ailleurs, je vois bien que je regarde d'un œil mâle les femmes. Les enfants, tout, tout. J'imagine les femmes, j'imagine sur les femmes mon œil hyper mal. J'imagine ça, et pour elles, et pour moi. Ça ne va pas pour moi. Pire, le discours qu'après je produis sur les femmes est mal, induit par une pratique masculine du rapport aux autres. Mais où ai-je contracté ça? Est-ce parce qu'il est destiné aux chercheurs et universitaires? Honte alors. Peine aussi. Je m'affaisse. Je renonce à la parole. Je perds le goût de l'ethnologie. C'est facile, je n'ai pas grand-chose à perdre. À quel prix le savoir est-il acquis? Dans quelle moulinette a-t-il pensé? J'ai désappris. Aucune présence n'est innocente. Maintenant, les prêtres rigoristes crachent sur mon passage. À cause des femmes, à cause des possédés, à cause des forgerons, à cause de moi, sans doute. Il ne me serre pas la main, la femme pollue. Au regard de la science, je suis dans un mauvais cas. N'y aurait-il que moi? 27 janvier. À Itéfil. Le chef est grisonnant, les yeux en amande, regard futé et intelligent. Beau parleur, il me dit « Non, nous ne savons rien, puisque personne n'a jamais été capable d'écrire tout cela, vous savez bien. Le tour est joué. » Pourtant, Itéfil est un endroit de rêve pour les griots d'autrefois, les collines découpées contre le ciel en étant les témoins. J'y serais bien restée. À Koukan, parfaite feinte imbécilité des gens qui ne veulent rien dire. Enfin, nous arrivons à Bilal. Ils exhibent leurs forgerons, fièrement. La horde d'enfants s'achève avec celle des jeunes filles, des fillettes trop petites. Garba pense à Fatih, une fille d'Aebashi. Il veut retourner là-bas avec 1000 raisons officielles. Nous jouons aux camarades et à la mer. Nous jouons à tout. C'est à peine si nous sommes ici, à Bilal. Les gardes sont passés avant nous pour ramasser l'impôt. Nous jouons. Pourtant, les gerboises bouffent les semences, les criquets bouffent le reste. Non, il n'y a rien ici. Famille entière partie à Niamey.
Niamey, le 17 mai 76. Nicole, j'ai reçu ta lettre du 11 mai 76. Tout d'abord, bonne arrivée. Nicole, si j'y réponds sauvagement à ta lettre, c'est que tu es coupable en me disant de remettre les cassettes à Issa ou à Jean. Bref, c'est tout le problème, celui des piles. Si tu veux, tu pourras envoyer ces piles ou un transformateur. Comme il y a de l'électricité au service, les piles, c'est pour le samedi et dimanche, chez moi. Pour l'avance à laquelle on dit non, cela n'est pas grave. Je ne me fâche pas pour ça, mais les piles. Quand on envoie une lettre qui fâche, on reçoit une réponse qui fâche. Si je me fâche, c'est que tu es coupable. Car prends mon cas, étant pauvre, il me faut payer presque tous les 4 jours des piles. Et tu sais que la transcription ronge les piles. Bonjour à Aminatou et à Louis. Mon pays est chaud et tâche de ne pas répondre chaudement à ma lettre. Le grand problème, les piles, les piles, les piles. Toujours dans ta lettre, tu disais, s'il y a d'autres choses qui ne vont pas, écris, écris, alors les choses qui ne vont pas sont nombreuses, mais la plus grave, c'est les piles, les piles. Du courage, tout va bien, mais les piles. Bagra du Niger, le pauvre, même les timbres il faut. C'est triste. Niamey, le 18 juin 76. Nicole. Nicole, une chose vraiment curieuse que peut-être tu ne vas pas croire. J'ai fait un tour à Aïbachi, Nicole, par une occasion d'un camarade, le sergent Nadare Adamou, qui s'est marié à Benkoukou. Tout d'abord, le Sarkinbori, Nicole, ce vieux Zakara, il est toujours le même, même intelligence. Nicole, il te demande, Nassara, dans son langage d'eux. Il me dit qu'il pense toujours à toi en se demandant où tu es. Peut-être chez toi dans ton village, dans ton pays. Il me demande quand tu seras de retour. Toujours de la même manière, le sage vieux. Tant de questions, Nicole. Il me charge de te remercier de tout ce que tu lui as fait. Que Allah t'avance, dit-il. Tout le monde est présent. Le vieux Mahaouya me charge de te dire la même chose. Tout le monde vient me voir d'ailleurs, tout le village. Les yeux du Sarkinbori sont toujours les mêmes. Il est toujours dans le même lit, avec la même pipe. Il est toujours la face à l'ouest. Mais s'il faut tout dire, j'en ferai 3 pages. La vieille aux yeux qui saignent de temps en temps, celle-ci n'est toujours pas guérie, grave problème. F comme Fatih, Nicole. Fatih, cette Fatih, la belle Fatih, belle créature d'Allah. Nicole, j'ai à dire beaucoup de choses sur Fatih. J'ai beaucoup de choses à dire sur Aïbachi, mais le temps manque. Donc, au prochain courrier. Bonjour à Aminatou, qui ne répond toujours pas à ma lettre, comme les autres. Amitié, Bagra McCoy.
Petit commentaire.
Non, mais c'est ça, du coup, le dispositif que vous choisissez d'explorer, c'est la lecture.
Ouais. Pour Garba et Nicole, c'est la lecture des lettres et du journal. Oui, c'est pas la... c'est pas jouer par cœur, faire semblant d'être. Enfin, là, on a des courriers et un journal. Et oui, ça, c'est un dispositif. C'est clair. Et puis, c'est une sorte de dialogue, enfin, de dialogue, c'est-à-dire de entre Nicole, bien sûr, ce ne sont pas des lettres, c'est un journal, donc ce n'est pas le même registre de paroles et d'écrits, mais on est à la fois dans deux univers différents et qui en même temps se rencontrent à un moment, mais du coup, ça, voilà, c'est se faire jouer.
Mais que ce soit bien clair, ce n'est pas des comédiens qui vont jouer, c'est donc tu vas à la rencontre, tu décides d'aller à la rencontre de Nigériens,
oui,
à Bruxelles,
oui,
qui vont, eux...
Oui.
C'est là qu'il y a plusieurs étapes.
Ouais. Alors oui. Donc c'est là où j'ai fait des repérages assez longuement, puisque ça fait 2 ans et demi que je vais là-bas rencontrer des Nigériens qui sont beaucoup à Bruxelles, parce qu'il y a une grande communauté de Nigériens là-bas. Voilà. Et donc oui, j'ai cherché parce que l'idée c'est de faire entendre la parole de Garba et la parole de Zagara par des Nigériens qui ne sont pas des comédiens professionnels entre guillemets, qui sont en tout cas des gens qui acceptent le jeu de restituer cette parole là et en même temps de la faire entendre donc à d'autres Nigériens pour avoir un regard quoi sur cette à la fois le journal de Nicole et la parole de Garba. Et
donc le dispositif, on n'aime pas le mot, mais voilà, c'est l'idée en tout cas d'une partie du film. C'est ils lisent les textes, donc on revisite les archives, et ensuite il y a des discussions,
oui,
autour des situations dans les textes avec des Nigériens, dont par ailleurs tu les choisis de manière... c'est des gens qui sont quand même soit des anciens opposants politiques, c'est ça, soit des fils et petits-fils de tirailleurs sénégalais. Donc c'est des gens qui ont des choses à dire. Je veux dire,
oui,
j'ai l'impression moi quand même que tu choisis jamais la facilité. C'est pas de...
Non,
c'est pas
la facilité.
C'est d'aller toi-même, moi je trouve, te mettre dans une position qui questionne tout le temps, aujourd'hui sans doute de plus en plus, sur toi aussi, femme française, blanche, aller te mettre... aller chercher la parole potentiellement compliquée autour du passé et du présent colonial.
Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. C'est en fait donc ouais, vas-y Karine.
Du coup l'idée était de trouver un lieu où on pouvait chercher collectivement cette parole, et c'est vrai qu'il y a peu de Nigériens en France et que Aminatou avait trouvé ce lieu en Belgique, en Bruxelles, où il y a beaucoup plus de Nigériens, et notamment où il y a des opposants politiques, une communauté plutôt basée autour d'une communauté d'opposants politiques,
oui,
au régime actuel.
Disons que de Nigériens qui sont installés en Belgique, justement parce qu'ils sont opposants politiques à la fois au Niger et à la France. Donc il n'était pas question qu'ils soient en France. Pour eux, donc sont des voilà. Donc oui, c'est pas la facilité. C'était pas du tout la facilité. J'ai passé 2 ans et demi en fait à travailler avec, à les rencontrer, à créer des relations, à effectivement écouter, à recueillir des récits, en tout cas à sentir qui pourrait être intéressé par le projet et quelles paroles j'avais envie de. D'avoir.
Peut-être.
Donc ouais, c'est aller assez loin avec l'idée que il y en a qui portaient vraiment. Enfin, il y en a un notamment qui se reconnaissait vraiment dans Garba et qui avait vraiment l'impression que les textes de Garba, il aurait pu les écrire lui-même, on va dire, ou en tout cas que c'était lui.
Oui, c'était Garba.
C'était Garba. Et pour l'interprète de Zakara, il y a un homme qui aussi qui venait d'une famille
qui était originaire du village de Zakara et qui était très très lié au Bori, enfin au culte de possession, et pour qui c'était familier, et qui lui était venu vers moi justement parce qu'il avait envie de savoir des choses, enfin de retrouver des choses. Et donc voilà, donc moi je suis arrivée là-bas, j'ai aussi apporté des images, et puis du coup il m'avait demandé des articles par exemple écrits par Nicole, donc je les lui avais donné, il y avait cet échange là aussi possible. Et
il y a eu du coup pendant 2 ans des allers-retours, alors, enfin il y a eu le Covid hein, donc on n'était pas toutes les 5 minutes non plus, mais il y a eu pas mal de sessions avec eux,
ouais.
Ce qui t'ont quand même poussé à aller au Niger, parce que pour le coup, il n'y a pas, oui, que moi qui t'ai posé.
C'est vrai que pour eux, il y avait l'évidence qu'il fallait que j'aille là-bas et que j'aille retrouver. Et parce que pour eux, j'étais nigérienne. Il y avait mon prénom, il y avait vraiment une connexion très forte. Et
qui t'identifiait pas mal à ta mère, en fait.
Aussi, qui... oui. Et donc, je suis allée au Niger, d'ailleurs. Ils ont accepté le projet. Jusqu'à un certain point.
T'es allée au Niger pour chercher Garba, par exemple ?
Alors, j'y suis allée parce que je pense qu'il fallait que j'y aille et qu'il fallait que je m'assure, effectivement, que je vois aussi s'il y avait encore des personnes vivantes qui avaient travaillé avec ma mère ou qui l'avaient connue. J'en ai retrouvé 2 qui ont 85 ans aujourd'hui. Garba est décédé depuis une dizaine d'années, mais ça, c'était sur place, en fait, que je pouvais le savoir. J'ai retrouvé là-bas au Niger, donc j'ai rencontré des chercheurs nigériens aujourd'hui qui sont à l'Institut de recherche en sciences humaines de Niamey, qui ont tous, forcément lu les textes de Nicole, puisque c'est des textes très importants de ce que j'ai compris. En fait, j'ai senti beaucoup de choses. Et là, à ce moment-là, je me suis dit que le film, effectivement, devait se poursuivre et aller jusqu'au Niger. Et que donc là, donc c'est au printemps dernier que je suis allée au Niger. Ça semblait une évidence. Et aussi dans une forme de restitution de tout ce travail-là, puisque les chercheurs que j'ai rencontrés me disaient, j'avais amené aussi des tirages d'époque, et les sons avec moi, et me disaient que les chercheurs là-bas, des chercheurs français n'avaient ramené, déposé des archives, et que ça les intéressait, eux, d'avoir... d'avoir cette matière-là. Et donc, du coup, voilà.
Enfin, ta mère, elle avait laissé tous ses écrits là-bas, il y a la médiathèque, il y a vraiment. Mais par contre, évidemment, en termes de rush, en termes de.
D'images, les films, les sons, les photographies, il n'y avait rien. Et quand je suis revenue du Niger, donc c'était un pas important, en fait, aussi dans le lieu, en fait, de l'association avec les Nigériens, puisque là, c'est comme si ils étaient sûrs à ce moment-là que j'avais vraiment envie, enfin que c'était un choix de faire le film là, dans leur lieu, avec eux, et que donc il y avait quelque chose qui pouvait s'entrevoir.
Et peut-être, justement, la présence de Karim, ça nous permet de, enfin, parce que souvent. Soit ça se passe comme ça, soit on a cette idée que le documentariste il va partir un peu seul. Là, t'es quand même toujours, en fait, t'as une gestion, et puis tu fais venir Karim, vous venez du théâtre, je crois, de la mise en scène, etc. La question de filmer la parole dans le cinéma documentaire, elle est toujours cruciale. Pourquoi, justement, tu fais venir quelqu'un pour travailler autour de la mise en scène de la parole collective? À quel moment ça devient une nécessité? Comment ça s'organise?
Mais comme je voulais faire rejouer les textes du passé, enfin déjà, et que j'avais envie que ça soit travaillé et retravaillé. Enfin, en fait, avec Karim, on travaille depuis une dizaine d'années ensemble, par ailleurs, sur d'autres projets. Du coup, on a déjà il y a cette connexion là, et je savais que je voulais pas forcément accéder à quelque chose de l'ordre du cinéma de fiction, mais que le décalage, puisque c'est du coup tu viens du théâtre, m'intéressait dans ce qu'on pouvait faire créer, en fait, comme parole et comme jeu, enfin sur la parole. Et ensuite, il y avait aussi cette parole collective là que je voulais aussi recueillir ensuite, et c'est une parole donc collective comme un cœur, avec et que cette parole là c'est pas qu'il faut la mettre en scène, parce qu'il n'en est pas question, puisque tout le travail est aussi de savoir comment comment avancer, travailler quelque chose sans imposer et diriger. Et il n'était pas question de dire aux Nigériens ce qu'ils allaient dire et comment ils allaient le dire. Et pas non plus question d'imposer une caméra, disons, documentaire qui colle, enfin, qui suivent et qui pourchassent, enfin, un peu les personnes dans l'association, mais du coup de trouver un dispositif encore qui permette de faire en sorte que les hommes qui participent au film choisissent s'ils s'approchent de la caméra ou s'en éloignent, s'ils rentrent dans le champ ou sortent du champ. Pour prendre la parole, et quand on prend la parole, donc une parole collective sous forme de cœur, de quand même malgré tout travailler ça comme, pas comme en théâtre, mais donc avec Karim, parce que ça se chorégraphie d'une certaine façon.
Parce que je ne sais pas si on l'a dit, on est dans un lieu, une association qui s'appelle Arnibel à Bruxelles, qui est un lieu où donc des Nigériens viennent vivre, ça fait café, enfin voilà, oui. c'est... C'est parce que j'ai plus si on l'a dit,
oui,
en
non,
fait.
Oui, non, on l'a voilà, pas dit, de, parce de qu'on pouvoir... a... Non. Et donc, voilà, c'est le lieu de rencontre des Nigériens. Et donc, en fait, avec Karim est venu au tout début aussi, en fait, quand on les a rencontrés, pour voir le lieu, pour rencontrer les gens, puisque l'idée, c'est pas de... Enfin, de faire venir un comédien et qui va dire, voilà, qui va... Voilà, donc c'est vraiment de fabriquer avec eux.
Oui, c'était déjà de prendre contact, et comme on disait, c'est un lieu où ça circule, c'est-à-dire que certains vont passer, on va boire un café, on va boire un thé, on va repartir, il y a l'heure de la prière, il y a la vie, en fait, dans ce local associatif. Et puis les rencontres ne peuvent pas se faire, on ne peut pas dire, bah tiens, on va travailler sur telle parole, tel personnage, alors on va essayer quelque chose. Enfin, ça doit être beaucoup plus... Enfin voilà, ça se fait, c'est vraiment une rencontre. Et la question que je trouvais importante, c'était... ça, on en a plus ou moins... Enfin, on en a parlé, c'est l'appropriation de la parole. Et pas tant de jouer un personnage que de s'approprier, de se dire, bah tiens, cette parole-là, des Nigériens de ces années-là, comment elle résonne aujourd'hui chez des Nigériens d'aujourd'hui, avec les corps d'aujourd'hui, avec les personnes d'aujourd'hui, leurs problématiques. Et ça, c'était... voilà, c'est pas facile, mais c'était un peu la gageure aussi, d'avoir une résurgence de cette parole-là. Une mise en corps, on peut dire.
Oui, voilà, c'est ça le travail. Et puis, il y a aussi, donc, moi, avec la parole de Nicole, et aussi ce même travail-là fait avec les Nigériens, fait avec moi, pour moi arriver à ce que cette parole-là puisse s'entendre. Et voilà, et bon.
Tu veux montrer le teaser du développement?
Ah, oui, très bien. On va faire ça. Donc, on va passer à l'autre extrait. Alors, c'est 6 minutes que j'ai préparé pour justement pour l'aide au développement renforcé.
Le bouée de sauvetage de
qui est une commission où on est quand même censé avoir avancé pas mal par rapport à l'écriture.
Comment ça marche? Alors, CCNC. C'est bon.
À chaque mission, je demandais incessamment à Nicole de m'emmener au Niger. Je rêvais d'être dans les villages, d'être gardée par ses amies nigériennes, d'être au cœur de tout ce dont elle parlait avec emphase. Voilà. Elle prétextait un tas de raisons pour ne pas m'y emmener.
Et tu vois,
l'essentiel résidait dans le fait qu'elle était enfin seule là-bas. Qu'elle n'y était plus une mère. Elle y était Nicole.
Comme toi. Comme toi. Alors, comme toi.
Nicole, avec des cheveux blonds, très longs, une tignasse de Jenny Bruce, comme elle disait. Là-bas, disait-elle encore, elle pouvait être qui elle voulait. On l'acceptait telle qu'elle était. Je me souviens de cette force qui émanait d'elle. Quand elle revenait, elle était emplie de cette force lumineuse. Moi, je me sentais très loin, comme si je n'appartenais pas à son monde. Après la mort de Nicole, je n'ai plus voulu aller au Niger. Aujourd'hui, le film m'y emmène inéluctablement. Je ne sais pas si je retrouverai ma mère, mais je suis sûre d'y retrouver Nicole. Je retrouve son Niger dans la maison familiale, dans ce petit hameau de Basse-Normandie où ma grand-mère, pourtant fière de sa fille qui partait voyager si loin, maugréait de ne pouvoir m'appeler par mon prénom dans le monde, un prénom de petite noire. Ça n'allait pas. C'était dans les années 70. Dans cette maison, nous avons tout gardé. Journal de terrain. Nicole écrit.
23 janvier 1976, Bilit. Aujourd'hui encore, je sens sourdre l'émotion du début de la transe de chacun, partagée par l'assistance, et qui titille dans chaque corps, tandis que le génie du bien commence à ébranler la carcasse du cheval. Petit tremblement. Revoir le sens d'ému. Émouvoir. Émotion. Puis la fin, le corps qui chute sur le sol, qui s'affale, le travail des corps et même des très vieux corps qui prend fin, Je pensais fuir l'hostilité à l'égard des Blancs, mais elle s'est transmise maintenant. Que puis-je représenter d'autre à leurs yeux qu'un pouvoir répressif ?
Là, dans le dossier de, pour le renforcement, le développement renforcé, il n'y a donc pas mention explicite pour le voyage à venir en, au Niger, mais il y a une figure dans le dossier qui est votre père. Est-ce qu'il va apparaître dans le film ? Question piège, peut-être.
Oui, donc mon père, j'ai filmé mon père, j'ai commencé à filmer mon père, il sera dans le film effectivement, qui est au départ, il est arrivé à un moment donné, presque aussi comme une évidence, enfin, dans le sens, dans la mesure où il est, évidemment, il était assez proche de Nicole pendant une assez longue période et il a aussi, lui, voyagé au Niger. Et pendant qu'elle, elle était sur le terrain, elle lui écrivait aussi beaucoup de lettres. Et donc, il est quand même un témoin vivant, direct de cette période-là. Et en fait, il a aussi une grande compréhension, enfin, analyse, enfin, des choses. Ça me permet, en tout cas pour le film, de penser. De comprendre en fait Nicole dans sa dimension, enfin disons personnelle, enfin ici en France, et de la faire revivre, enfin de la faire vivre en tout cas de manière plus directe. Et aussi, donc mon père vit en Normandie dans la maison disons familiale, qui est celle dans laquelle il y a les archives. Et toutes les archives, et que déjà il était question que je filme dans cette maison-là, et que ça a du sens par rapport à cette part disons personnelle qui maintenant a pris disons plus de place. Pour mon père, je sais pas.
En fait, ce qu'on peut dire, c'est que les Nigériens aussi t'ont poussé vachement dans cette histoire personnelle, te ramener souvent à ton père.
Oui, c'est vrai.
Et à ta mère, et prenaient souvent, toujours des nouvelles de ton père. Et enfin, il y a quand même le Niger, la partie nigérienne te poussait à explorer. Cette histoire familiale, quand même.
Puisque avec les Nigériens, c'est la famille, elle est toujours là présente, c'est assez infernal. Et du coup, j'ai bien été obligée de. Par la force des choses, de le faire. Donc, du coup, quand j'allais à Arnibel, dans l'association, je donnais des nouvelles de mon père et il prenait des nouvelles de mon père. Mais donc, du coup, il est arrivé dans l'histoire et autant que, disons, Nicole et. Et puis même tout le reste de la famille. Enfin, après, c'est élargi. Mais donc, voilà. Donc, et puis, ce qu'il raconte est aussi assez... il a une partie de l'histoire que moi, à laquelle je ne peux pas avoir accès, à savoir les relations, comment ça se passait en France, au CNRS, dans les relations entre, disons, ethnologues, la place de l'ethnologue femme et sa façon à elle de travailler qui n'était pas la même que celle des autres chercheurs et pas forcément toujours en accord. Et donc, du coup, les complications, la difficulté qu'elle pouvait avoir voilà, imposer sa façon de faire et à avoir aussi des financements pour partir sur le terrain ou, et pour filmer, par exemple. Donc lui, voilà, il y a cette partie-là qui, voilà, qui est intéressante.
Et, ouais.
Et donc là, on est à un moment un petit peu fragile, en fait, devant vous, parce que ce qui se passe, comme vous voyez... Le film est peut-être en transition et Arnibel, tout ce passage en Belgique est peut-être a peut-être été un passage pour faire passer le film ailleurs et notamment vers le Niger, j'ai l'impression, ou peut-être encore vers d'autres pistes, parce que alors qu'au mois de juillet on était assez calé avec l'association, etc., et qu'on organisait déjà le tournage pour novembre, là. Récemment, il y a des difficultés, et c'est marrant parce que les paroles de ta mère dans la fin du teaser résonnent quand même vachement avec ce qui t'arrive,
ouais.
En fait.
Il ouais.
y a certains des gens qui ont des fondateurs de l'association, en fait, que Aminatou fréquente depuis le début et qui sont même ceux qui l'ont poussé au départ à venir là et à travailler là et qui étaient beaucoup dans l'idée de parler de la France-Afrique aujourd'hui, des relations de la France avec le Niger, etc. Là, on a une façon de voir le film et d'envisager le film qui rend les choses difficiles, où on a l'impression qu'ils prennent un peu le contrôle sur la parole de l'ensemble du groupe et que ça va être compliqué d'avoir une parole et des discussions finalement dans ce lieu.
Oui, et même la réinterprétation de Garba et Zakara, du coup. Donc, voilà, ça, c'était la semaine dernière. donc c'est assez frais. Donc, voilà, on a travaillé quand même cette semaine avec Karim sur les textes, sur la parole, de retourner à la parole, mais voilà.
Pour terminer sur une note positive, votre voyage au Niger va avoir lieu.
Oui, ça, le tournage au Niger est toujours prévu, et oui. Après, voilà, le film va forcément se bouger, et les choses vont se redessiner, et voilà, autrement...
On est déjà à 19h30, donc on n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce qu'il y a des questions de la salle? Non. Oui, j'arrive.
Ça m'a pas mal interpellée, parce que ce que vous dites par rapport à l'association, c'est comme si finalement le film c'était venu leur film à eux, quelque part. Enfin, j'ai pas tout à fait compris. Pourquoi est-ce que finalement ils veulent prendre plus enfin, si vous pouvez m'expliquer un petit peu plus ce qui se passe.
Mais c'est. C'est vrai que ma place est fragile là-bas, depuis le début, parce que je suis française, et que je suis une femme, et surtout parce que je suis française. Et que de participer pour eux à un film français. C'est difficilement concevable. Et parce que il y a cette idée, c'est...
Là, la demande, si vous voulez, c'est pas de... Là, ce qu'on leur propose, c'est de dialoguer ensemble et entre eux sur les images. Et là, en fait, il y a plutôt la proposition de parler, de prendre la parole dans une allocution politique sur la situation et du coup de dire un message mais à sens unique et d'une seule des personnes en fait au final ou d'un tout petit groupe de personnes. En tout cas c'est comme si la démarche de film, c'était plus une démarche de film, c'est plutôt une allocution politique.
D'autres questions? Deux secondes.
Non, ce que je voulais savoir, c'est juste si vous pouviez nous donner l'année où vous avez décidé ça, trouver les archives. Quel délai, parce que je veux dire par rapport à la situation actuelle politique, si vous aviez ce projet est né à quel moment, je veux dire, enfin, exactement, parce que pour trouver les archives, que ça vous travaille suffisamment, etc.
Oui.
Parce que, pardon.
Allez-y.
Non, c'est parce que pour, je me dis c'est dommage en effet que ça n'ait pas pu être fait un petit peu avant, ça aurait pu être plus facile pour vous. Mais à quel moment est-ce que ça a été
Non, mais la situation, juste pour répondre par rapport à la situation politique, et on peut, je pense que je comprends de quoi vous parlez, mais en fait, il y a eu des hauts et des bas, effectivement, dans la relation, systématiquement, qui suivaient les aléas de la politique française au Niger, ou dans la région. Et du coup, le projet, il avait commencé
en 2015. En 94. Et voilà, donc j'ai retrouvé toutes ces archives et le film a commencé à se mettre en place en 2015. Le temps d'écrire, de penser, enfin voilà, d'avoir des aides, etc. Tout ça, ça prend du temps, ça chemine. Et là, ça fait 2 ans et demi que j'ai rencontré ces personnes-là à Bruxelles. Donc et puis de toute façon, ça ne peut pas se faire vite quand on rencontre des gens, enfin en documentaire en général. C'est-à-dire qu'il faut quand même construire une relation. Et puis ça se fait aussi parce que l'autre a aussi un désir de film. Et si l'autre qu'on a envie de filmer n'a pas ce désir de film... et qu'il n'y trouve pas son compte d'une façon ou d'une autre, alors il ne peut pas y avoir de film. Et qu'en fait, là, pour l'instant, les choses ne semblent pas aller dans les deux sens, en fait, avec eux. Et que il y a 10 ans, ça aurait peut-être été pareil, parce que la situation...
Tu es resté dans ce lieu parce qu'il y a eu un moment où tu pensais qu'il y avait un désir commun. Oui. Il y a eu des moments où il y avait un vrai dialogue il semblait un vrai désir rapport aux archives, un vrai désir de discussion.
Bien sûr.
Et vous avez eu des discussions en plus.
On a eu des discussions, il y avait un désir. Le projet est présenté au bureau de l'association, en assemblée générale, à tout le monde. Soutenu par justement certains des fondateurs de l'association, donc c'est vraiment quelque chose qui est là, quoi, de plus sourd, enfin, et je sais pas si c'est toute la question est de savoir comment restituer cette parole là et ce travail là et est-ce que aujourd'hui, enfin, comment, voilà, je sais pas. Et au présent, comment est-ce qu'on parle du présent, en fait?
Petit dernier mot, peut-être. Question, Fabienne, vous voulez te rajouter quelque chose? Non. Dans ce cas-là, je voudrais vous remercier.
Présenter le film?
Non, parce qu'il faut attendre un tout petit peu, parce qu'il n'est pas encore 20 heures.
Mettre le lien entre...
Quand vous voulez.
On peut peut-être présenter le film
maintenant et après... Le film,
Et puis on fait la pause.
Oui. Il faut faire la pause parce que
il faut
faire une petite pause pour le projectionniste.
D'accord. Donc, on préfère qu'on présente le film juste avant qu'il.
Oui, oui. C'est ce que je. Normalement, c'est notre habitude. Merci beaucoup en tout cas, Aminatou, Karine, Karim et Fabienne. Merci à vous. Et donc nous, on se retrouve juste avant 20h. Avec Aminatou qui va donc parler de Djamélia, présenter son film. Merci, à tout à l'heure. Bonsoir ou rebonsoir, madame, monsieur, bienvenue donc au Centre Pompidou avec de nouveau Aminatou Echar qui va nous dire quelques mots sur son film Djamélia. Djamélia, un film de 2018 qui a été programmé au cinéma de Riel, qui depuis est entré dans la collection VOD de la BPI, Les Jeux d'Oc, une collection qui est accessible pour tous ceux et celles et ceux qui vont dans une bibliothèque, mais qui mérite d'être vue, évidemment, sur grand écran, ce qu'on fait ce soir. Alors, Djamila, c'est qui Djamila Aminatou?
Alors, Djamila, c'est le personnage d'un roman de Chingiz Aitmatov, qui est un écrivain kirghiz qui est décédé maintenant, qui est un écrivain très important. Et donc, il a écrit, c'est sa première œuvre de jeunesse, un roman qui s'intitule Djamila. Donc, Djamila Et donc, la particularité de ce roman-là, donc c'est devenu le titre du film, puisque... donc j'ai passé beaucoup de temps au Kyrgyzstan et donc en fait là-bas au Kyrgyzstan tout le monde connaît Djamila et donc le film c'est partir à la rencontre des femmes pour leur demander qu'elles me parlent de Djamila et évidemment au travers de la façon dont elle me parle de Djamila, elle me parle d'elle. Mmh. Et donc, voilà. Alors, le roman de Djamila, de Chingiz Aitmatov, a été écrit en 58. Et il a été traduit en français par Aragon, tout de suite. Et connu, lu en Europe, aussi bien en Europe qu'en Asie centrale. Et en fait, dans toute l'Union soviétique, il a tout de suite été mis au programme scolaire. Donc en fait, tout le monde a lu Djamila aussi, dans les écoles, tout ça. Donc le film, je l'ai tourné en Super 8, en pellicule, donc essentiellement. Je ne sais pas comment présenter. J'ai jamais fait. C'est étrange comme exercice. Parce que du coup, donc, ouais.
Quelques mots peut-être sur l'auteur du roman, parce que c'est quand même un personnage. Il écrit c'est une œuvre de jeunesse. Après, il devient un personnage au sein de l'Union soviétique et il commence à écrire en russe. Il devient conseiller de Gorbatchev. Et il devient même ambassadeur sous Poutine. Donc c'est vraiment un personnage totalement incroyable. Et il meurt en Allemagne, à Nuremberg. Mm. Donc c'est vraiment un personnage tout à fait singulier. Il a été ambassadeur aux Pays-Bas aussi, c'est le pays de ma naissance, d'où ma connaissance.
Et c'est un très grand écrivain, c'est vrai, donc c'est important de le dire, mais son écriture, sa langue est aussi très très belle. C'est pas un roman de gare, parce que tout le monde connaît ce roman-là, mais voilà, c'est... Et la particularité, il a écrit une œuvre de jeunesse, mais c'est un roman très transgressif aussi, ça c'est très important, dans la mesure où le personnage qui met en avant, ce personnage de jeune femme, quitte le foyer, quitte son mari pour partir avec son amant, et ça se fait pas. Et c'est une jeune femme qui tient tête à sa belle-mère, qui regarde les hommes dans les yeux, qui rit aux éclats, qui court dans la prairie. Et donc à la fois c'est un personnage qui est adoré par toutes les femmes, rêvé, et en même temps on ne ferait pas comme elle. Mmh. Et donc en fait, mais comme tout le monde l'adore, tout le monde à ce moment-là acceptait... avec joie en fait de me parler du personnage de Djamila. Et alors que au Kyrgyzstan c'est pas évident d'être là-bas avec une caméra et de filmer et que on peut pas rentrer dans les maisons comme ça, on peut pas aussi les femmes sont aussi sous la coupe de leur mari, des belles-mères, de la belle-famille, et donc elles n'ont pas la liberté de parole, et que de parler de leur vie, ça aurait été délicat. Donc voilà, j'ai utilisé ce moyen-là, le personnage de Chingiz Aitmatov, mais parce que, alors après, il y avait aussi un lien, une connexion. Ce roman-là ayant été traduit par Aragon, c'était presque aussi évident pour eux que moi, une Française, j'arrive
pour parler de Djamila. Et donc Chingiz Aitmatov et Djamila m'ont aidé à rentrer en contact avec toutes ces femmes. Après, la forme du film, c'est donc en Super 8, en pellicule, donc c'est pas du son synchrone. Donc j'ai fait tout un travail de composition, de recomposition sonore, à partir des sons que j'avais enregistrés de manière indépendante. En dehors des moments où je filmais leur image et où je recueillais leurs paroles, et donc ensuite ça a été un travail de composition au moment du montage pour rassembler tous ces éléments et pour donner peut-être une idée. J'avais 3h45 d'images de rush, on va dire, et puis 50 heures d'entretien.
D'accord.
Avec aussi tout un tas de sons et de choses comme ça. Et donc après, ça a été un travail de... Voilà.
Et donc le film a acquis une certaine notoriété en France. Est-ce qu'il a été projeté en Kyrgyzstan, là-bas ?
Là-bas, au Kyrgyzstan, oui, il a été... Alors moi, j'ai organisé une projection avec les femmes qui sont dans le film. Sur les 14 femmes, 10 ont pu venir. C'était important pour moi de les rassembler et qu'elles, pas d'aller les voir une à une pour leur montrer le film, mais qu'il puisse y avoir une rencontre à cette occasion-là. Donc ça a pu se faire. Elles ont trouvé que c'était vraiment elles, leur vie, que j'avais réussi à récupérer tous leurs secrets, que quand même j'avais été bien forte pour ça, parce que c'était pas gagné. Mais elles s'y sont retrouvées et elles ont dit qu'il fallait montrer le film et le faire voyager au Kyrgyzstan. Alors bien sûr, elles m'ont dit aussi pas dans leur village, parce que la projection que j'ai pu faire, je l'ai faite en privé et pas publique, parce que quand même elle délivre une parole qui est engagée et qui peut les mettre en danger, leur causer des ennuis. Et on a organisé une projection à Bishkek, la capitale, publique, là, pour le coup, où elles n'ont pas pu venir, et où là, le film a été beaucoup moins bien reçu. Parce que là, je mettais en avant une image du Kyrgyzstan qui n'était pas une belle... image. Et que quand même il y avait des nuances qu'on pouvait pas, et donc du coup c'était beaucoup plus mitigé, et en même temps mais du coup c'est ce qui m'a frappé, c'est le contraste entre elles, les femmes du film, qui s'y retrouvaient et qui voulaient vraiment le faire partager et tout ça, et en fait l'impossibilité finalement de recevoir en face ce qui est vécu. Et après, sinon, le film, il a circulé dans beaucoup, beaucoup de festivals, un peu partout dans le monde. Ouais.
Nous, en tout cas, on est très, très contents de pouvoir le projeter ce soir en votre présence. Et je vous souhaite tout simplement une très bonne projection. Merci.
Merci.
À très bientôt.
Bonne projection.